Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans Vers de terre, l'émission qui décortique l'actualité écologique et les sujets sociétaux actuels pour vous proposer une analyse fine et pertinente. Le Master Peps, nous, sommes ravis de vous accueillir pour les 30 prochaines minutes pour notre rendez-vous annuel. Dans notre master intitulé « Politique environnementale et pratiques sociales », on travaille sur l'action publique et les enjeux environnementaux en utilisant la sociologie et les autres champs des sciences sociales, comme la politique, l'économie ou la santé environnementale. Notre sujet du jour, les inégalités environnementales mises en lumière au prisme des déchets. Certains, certaines vont se demander qu'est-ce qu'une inégalité environnementale ? Et vous connaissez sûrement les inégalités. Prenez un shaker, ajoutez-y de l'écologie, et paf, vous avez un cocktail d'inégalités environnementales. Même si on parle souvent d'inégalités sociales, on peut penser au mouvement des Gilets jaunes, nous avons choisi ici d'évoquer les inégalités face aux déchets. Pourquoi parler des déchets, objets de dégoût et de rejet pour la plupart des gens ? Quand on pense aux déchets, on pense direct aux déchets que l'on jette à la poubelle, l'emballage de gâteaux que l'on met au recyclage, les épluchures que l'on met au compost. Mais qu'arrive-t-il après cela ? Le compost est assez simple à gérer si on a un jardin, et à moins de mettre un traceur GPS dans sa poubelle, il est compliqué de savoir clairement ce qu'elle devient. On cache nos déchets, on les fait disparaître de notre vision directe pour s'en éviter les désagréments. Les déchets ne perdent pas leur valeur à l'instant où on les jette, ils gardent une valeur résiduelle. Ce qui est un emballage jeté pour nous est le début d'un processus économique de recyclage qui s'engage pour une entreprise comme Paprec ou des coopératives de recyclerie. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent le concept qui sera le sujet de notre émission. Et l'exemple des épluchures n'est pas le seul. Les déchets, ça va du mégot jusqu'aux déchets nucléaires. Et il n'y a pas un déchet qui n'a pas d'impact sur les générations futures. Souvent, on ne sait même pas combien de temps ces déchets auront des conséquences. Il faut bien garder ça en tête. Notre émission sera découpée en plusieurs parties, allant d'un historique du service de public d'enlèvement des déchets et de la législation qui l'entoure, à la tarification incitative et au concept d'inégalité environnementale. Le tout sera appliqué à notre cas d'étude, l'Ariège. Avant de passer la parole à mes camarades, je tiens à dire que nous ne portons pas un jugement moral par rapport à la tarification incitative. Nous vous proposons simplement une analyse du mode de gouvernement qui sous-tend cet instrument de l'action publique. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne émission en notre compagnie.
Bon, pour commencer, pourquoi avoir choisi le département de l'Ariège pour illustrer notre émission ? On a choisi cet endroit car il y a actuellement un changement dans la gestion des déchets sur le territoire. Avant, la gestion des déchets se faisait de manière assez classique, avec des points d'accueil volontaires pour les ordures ménagères et le recyclage, c'est-à-dire des bennes collectives réparties un peu partout dans les villages du département. Mais depuis à peu près un an, la tarification incitative est en train de se mettre en place. On vous expliquera au fur et à mesure de l'émission ce que cela signifie et implique. Mais pour commencer, un petit topo sur le département. Selon les données officielles de l'INSEE, on compte en Ariège un peu plus de 150 000 habitants en 2023. C'est un territoire plutôt rural où les revenus restent plus modestes que la moyenne nationale. De manière plus générale, les pratiques environnementales sont bien ancrées dans le territoire ariégeois. C'est le cas notamment des pratiques agricoles, parce que près d'un tiers des terres agricoles sont biologiques ou en conversion, soit trois fois plus que la moyenne nationale qui est de 11%. Côté déchets, chaque Ariégeois et Ariégeoise produit environ 235 kg par an, soit 4,5 kg par semaine par personne. Et sur l'entièreté de l'année 2022, on compte une moyenne de tri d'emballage et de papier de 83,5 kg par habitant-habitante, soit un des résultats parmi les meilleurs de la région Occitanie. Toutes ces infos sont hyper importantes pour bien comprendre le territoire qu'on a choisi d'étudier, et les inégalités sociales et environnementales produites par le changement de la gestion des déchets en Ariège.
Alors, il y a d'autres informations importantes pour comprendre ce changement en Ariège, et ça concerne le SPED.
Le SPED, mais qu'est-ce que c'est ?
C'est le service public d'élimination des déchets, et je vais vous parler de son évolution en prenant appui sur la thèse du sociologue Renaud Nougarol sur la tarification incitative. Dans les années 70, le ministre de l'Environnement met en place un groupe de travail interministériel dédié aux déchets ménagers. Celui-ci va publier un rapport constatant que nos déchets ménagers ne cessent d'augmenter et surtout sont traités que partiellement. Le rapport parle de nombreux dépôts sauvages qui participent à la dégradation des paysages et au développement des pollutions et des nuisances. Le groupe de travail interministériel appelé GERS, G-E-E-R-S, critique également la tarification qui existe à ce moment-là dans le système de gestion des déchets. Il y avait alors deux options. utiliser le budget général de la collectivité ou mettre en place la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, appelée TEOM, qui est un impôt local intégré à la taxe foncière. Sauf qu'en 1972, 6000 communes avaient instauré cette taxe, mais elle ne couvrait pas l'entièreté du ramassage et du traitement des déchets, et elle devait être complétée par le budget général. Pour le groupe interministériel, cette taxe, elle n'encourage pas les dépôts sauvages, ce qui est un bon point, sauf qu'elle ne sensibilise pas non plus au suremballage.
Ok, du coup, ils ont fait quoi pour ça ?
Eh bien, en 1975, les collectivités obtiennent la liberté d'expérimenter des formes de redevances, comme la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, appelée la REOM. Elle diffère de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont on parlait juste avant, la TEOM, car la REOM, donc cette redevance, reflète la consommation de l'usager sur le principe du pollueur-payeur. Et on parle de tarification incitative, ou redevance incitative, lorsque la redevance comprend une part fixe, comme une sorte d'abonnement à un service, et une part variable, en fonction du poids, ou du volume, ou du nombre de collectes des ordures ménagères. Dans les années 90, on considère que cette redevance peut permettre de sensibiliser les usagers et qu'elle permet aussi d'optimiser les coûts. Parce qu'avec ce système, la collectivité n'a pas forcément besoin de payer une part du service. Sauf que le problème des dépôts sauvages est toujours un problème, et c'est d'ailleurs pas le seul. Il y a aussi les brûlages clandestins d'ordures ménagères, les dépôts de déchets dans les poubelles des voisins ou dans les villages voisins, et aussi pas mal d'erreurs, entre guillemets, de tri, entre le recyclage et les ordures ménagères, qui soit sont des erreurs, soit sont des stratégies pour détourner la redevance. L'enquête réalisée par l'ADEME dans les années 2000 estime que le plus gros problème de détournement des déchets, c'est pas les dépôts sauvages, mais c'est le brûlage domestique, parce que c'est un problème qui s'intensifie et qui a des conséquences sur la pollution de l'air. Tout ce débat entre taxes et redevances a surtout été analysé par des économistes. Ce qui fait qu'un grand nombre d'entre eux n'intègrent pas dans leur modélisation le problème du détournement des déchets et qu'ils priorisent les gains économiques aux enjeux sociaux. Et si les enjeux sociaux sont déjà rarement considérés dans les évaluations des politiques publiques, ils le sont encore moins dans ceux des instruments économiques. Dans leur modélisation pour la tarification incitative, les individus sont considérés comme économiquement rationnels. C'est-à-dire qu'on considère qu'avec un prix de la gestion de leurs déchets équivalent à zéro, les ménages ne trient pas leurs déchets. Pourtant, une étude révèle que près des trois quarts des usagers trient leurs déchets sans incitation financière. Et ça remet en cause l'hypothèse selon laquelle seule une taxe inciterait au tri.
Ok, je comprends un peu mieux comment fonctionne la tarification des déchets. Mais aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la loi, de la réglementation ?
Eh bien, aujourd'hui, on est dans la période 2021-2027 du Plan National de Prévention des Déchets, qu'on appelle aussi PNPD 2021-2027, et qui est prévu, tenez-vous bien, à l'article L541-11 du Code de l'environnement.
Ah oui.
Et pour résumer, le PNPD, il synthétise les objectifs et les actions de réduction et de prévention des déchets qui sont inscrits dans différents textes législatifs. Ça donne une sorte de vision d'ensemble. Une autre loi importante en France pour comprendre dans quel cadre s'inscrit le changement de pratique en matière de déchets en Ariège, c'est la loi Grenelle.
Ok, tu pourrais nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Cette loi, elle est le résultat d'une grande concertation sur l'environnement qui a débuté en 2007. Et un de ses grands chantiers, ça concerne la protection sanitaire et la gestion des déchets, avec un objectif sur 5 ans de réduire de 7% les ordures ménagères. Et c'est pour arriver à cet objectif qu'on retrouve la tarification incitative comme mesure de sensibilisation à produire moins de déchets. L'idée, c'est de faire payer les gens non pas en fonction d'un forfait, mais selon la quantité de déchets qu'ils produisent. Concrètement, ça peut passer par la pesée des poubelles ou par le comptage des bacs lors des ramassages. Le but, c'est de pousser tout le monde à trier davantage, à produire moins de déchets et à mieux recycler par le fait de vouloir réduire sa facture. En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de tarification incitative pour au minimum 25 millions de Français en 2025. Sauf que c'est un objectif qui n'a pas été atteint. Et ça, c'est notamment à cause de la complexité de sa mise en place. Parce que peser ou compter les déchets, ça veut dire autant de bacs équipés de puces électroniques, de véhicules équipés de lecteurs de puces et d'un système informatique de facturation qui va réceptionner les données collectées. Et même si on n'en a pas d'estimation budgétaire à vous donner ici, ça reste un coût pour les collectivités. Mais surtout, sa mise en place pose des questions sur les inégalités sociales, économiques et territoriales.
Ok, merci Milo pour ce point très clair, même si le droit peut être très compliqué à expliquer. On va passer à Swan, qui va nous donner un complément sur la tarification incitative.
Donc, comme on l'a dit juste avant, la tarification incitative est conçue pour faire évoluer les pratiques sur un territoire au travers de politiques publiques. Il faut alors bien comprendre que la tarification incitative a été construite autour de deux axes principaux, d'une part le côté économique et de l'autre le côté éducatif. On va donc essayer de développer un peu ces deux points. Côté économique, la tarification incitative reste un dispositif assez innovant. Le principe, c'est de faire payer les ménages en fonction de la quantité de déchets qu'ils produisent. Concrètement, ça permet de financer le service de collecte et de traitement des déchets.
Ok, du coup, qui gère nos déchets ?
En France, les collectivités territoriales, donc les communes, les intercommunalités, sont responsables de la gestion des déchets ménagers. Et en fait, elles peuvent choisir de gérer cette compétence en régie, donc ça veut dire directement, ou de la confier à des prestataires privés via des contrats de délégation de services publics, on dit DSP. La réforme de l'organisation territoriale engagée par la loi NOTRe de 2015 a entraîné des transferts de compétences en matière de gestion des déchets. Initialement gérée par les communes, la collecte et le traitement des déchets ménagers relèvent désormais des intercommunalités. Et celles-ci ont recours à de la sous-traitance auprès d'entreprises privées pour traiter les déchets de leurs communes. En 2021, environ 92% des dépenses de gestion des déchets étaient consacrées à la sous-traitance.
Mais dis-moi Swan, est-ce qu'on peut dire que la gestion des déchets, ça rentre dans une logique libérale de l'action publique, vu que c'est pris en charge en partie par les entreprises privées ?
Je dirais plutôt néolibérale. Mais concernant la tarification incitative, c'est moins la gestion privée des déchets qui illustre ce tournant de l'action publique que la prise en charge à l'échelle individuelle de cette gestion. La logique néolibérale vise notamment à faire reposer sur les individus la prise en charge des enjeux environnementaux. La logique néolibérale pense les solutions à l'échelle des individus et non à l'échelle d'une prise en charge collective. C'est une forme de privatisation poussée à l'extrême où les usagers sont sommés de s'adapter aux problèmes environnementaux. Au-delà de cet aspect financier, la tarification incitative a une dimension éducative et pour certains, même un côté un peu punitif, voire contrôlant. Parce qu'en gros, elle est censée pousser les citoyens à produire moins de déchets, puisque moins on en produit et moins on paye, mais ça incite aussi à adopter des comportements plus responsables. Par exemple, acheter des produits avec moins d'emballage ou privilégier le vrac. L'idée, c'est vraiment de réduire son empreinte écologique tout en économisant sur la taxe. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'individualisation de la responsabilité environnementale. On entend souvent dire que c'est aux consommateurs de changer leur comportement pour sauver la planète, qu'il suffit de faire un effort pour réduire notre empreinte écologique. Mais la sociologie nous montre que les actions individuelles sont souvent prises dans des dynamiques beaucoup plus larges qui nous échappent. Par exemple, quand on parle de réchauffement climatique, ce n'est pas juste une question de gestes quotidiens, comme faire pipi sous la douche. C'est un problème bien plus global, ancré dans des systèmes économiques et politiques complexes. Et là, il y a un vrai danger, individualiser les problèmes environnementaux. Et ça, ça permet aux décideurs politiques et aux grandes multinationales de se décharger de la responsabilité. Plutôt que de remettre en question leur rôle dans la pollution mondiale, leur exploitation des travailleurs précaires ou la destruction des écosystèmes, on nous dit en gros que c'est à nous de changer de comportement. En plus, ce discours sur le consommateur responsable, ce fameux « consomme-acteur », ça sert aussi à détourner l'attention des véritables causes de la pollution. C'est une manière pour les entreprises de court-circuiter les mouvements sociaux qui s'attaquent au « greenwashing ». Comme le dit Éric Neveu dans Sociologie des mouvements sociaux, les gens finissent par se désintéresser de l'action collective pour privilégier des comportements de consommation plus responsables. Mais en réalité, pour changer nos façons de consommer, il faut changer les structures de production et de consommation.
Bon, tout ce qu'a dit Swan juste avant, c'est hyper intéressant, mais ça peut effrayer certains ou certaines d'entre vous d'entendre parler de concepts sociologiques de cette manière. Donc, pour simplifier les choses et comme on a réalisé un petit entretien avec des habitants et habitantes d'un village d'Ariège, je vais essayer d'illustrer tout ça. En Ariège, la responsabilité environnementale individualisée s'est manifestée à travers une zone d'incertitude après le changement dans la tarification de la gestion de leurs déchets. Et cette zone d'incertitude, elle a directement impacté les pratiques des usagers et usagères. Pour un peu plus de contexte, dans ce village, la tarification incitative est en train de se mettre en place depuis à peu près un an. Et les choses ne sont pas hyper claires pour tous les habitants et habitantes. Je m'explique. Certaines personnes ont des poubelles individuelles, d'autres doivent utiliser des bacs collectifs situés un peu partout dans le village. Pour ouvrir ces bacs collectifs, il faut un badge. Et ce badge, il faut le récupérer à la mairie. Mais tout le monde n'est pas allé récupérer son badge. Soit pour protester contre le changement de la gestion des poubelles et dire qu'ils et elles sont contre vu qu'on ne leur a pas demandé leur avis, soit par crainte financière. Car jusqu'à récemment, les habitants et habitantes ne savaient pas combien ils allaient payer pour ce nouveau ramassage, alors même qu'ils payent encore la taxe d'ordures ménagères. Ces personnes expliquent qu'il est possible de jeter autant de poubelles de recyclage qu'ils veulent. La tarification incitative ne s'applique que sur les poubelles ménagères. Citons-les.
Je crois qu'on a droit à un certain nombre de poubelles dans l'année. C'est ce qui est prévu, mais ils n'ont pas encore dit le nombre.
Et cette zone d'incertitude pousse alors les habitants à s'habituer progressivement à réduire leur quantité d'ordures ménagères. C'était justement l'objectif de la tarification incitative. Ils sont devenus les fameux consommateurs et acceptent l'individualisation de la responsabilité de la pollution environnementale.
Et maintenant, une petite interlude musicale pour digérer tout cela, et on se retrouve juste après. C'est parti pour La grève des éboueurs de Jacques Duval.
C'est la grève des éboueurs. Y'a une odeur pestilentielle. C'est la grève des éboueurs. Je slalome entre les poubelles. Je compte les mouches qui se posent sur un monde qui se décompose. Les rues noyées sous la crasse. J'arrive une boue dégueulasse. Le comble, c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter. Le comble, c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter. C'est la grève des éboueurs. On respire pas l'air du grand large. C'est la grève des éboueurs. La vie n'est plus qu'une décharge. Des herbes inconnues fleurissent. Et d'ici peu dans ce cloaque, les rats vont passer à l'attaque. Le comble, c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter. Le comble, c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter.
Et bon retour parmi nous. Et Swan, je comprends pas trop, c'est quoi les critiques qui sont faites exactement sur la tarification incitative ?
Alors, pour mieux comprendre la critique de la tarification incitative, on peut faire appel à certains concepts de Michel Foucault, notamment celui du biopouvoir. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est un pouvoir diffus qui vise à contrôler les individus jusque dans leur plus stricte intimité, jusque dans leur poubelle. Comme par exemple à travers les guides de bonnes pratiques qui peuvent être diffusés par les collectivités locales. Les citoyens sont poussés à agir selon des pratiques écologiques, comme trier leurs déchets. L'idée derrière la tarification incitative, c'est de responsabiliser les citoyens, donc toujours ce concept-là de moins tu produis de déchets, moins tu payes. Cela soulève la question de savoir jusqu'où vont ces restrictions au nom de l'écologie. Où se trouve la limite entre responsabilité individuelle et contrôle social ? Par ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'État n'est pas le seul à avoir ce biopouvoir. Le biopouvoir existe aussi grâce à la surveillance qui est entretenue entre les citoyens. Par exemple, surveiller que son voisin fait bien le tri sélectif, qu'il n'utilise pas trop d'eau pour arroser son jardin. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont l'État et les entreprises, comme celles qui gèrent les déchets, influencent nos pratiques. Ils nous incitent à consommer différemment, à trier nos déchets, à faire des choses qui, en fin de compte, leur permettent de gagner du temps et de l'argent. La tarification incitative s'inscrit parfaitement dans cette logique. C'est un instrument de pouvoir qui permet un contrôle indirect, diffus et à distance. Foucault montre bien l'ambiguïté de ce type de pouvoir. Il est plus discret que celui des siècles précédents, mais il peut être tout aussi contraignant, voire encore plus autoritaire.
Mais donc les citoyens, ils n'auraient aucune marge de manœuvre par rapport à ce biopouvoir ?
La tarification incitative est un dispositif et il peut être détourné par les acteurs. Par exemple, on voit aujourd'hui des dépôts sauvages de déchets se multiplier pour éviter de payer des taxes. Ce n'est pas vraiment l'effet recherché par les pouvoirs publics, mais ça montre comment la pratique peut être détournée de sa fonction d'origine. Enfin, j'aimerais rappeler également que la tarification incitative s'inscrit dans la logique du pollueur-payeur, dont le principal écueil est de faire payer les citoyens pour leurs déchets sans réellement s'attaquer aux causes profondes du problème. Cette idéologie masque un système néolibéral où on responsabilise les individus sans remettre en question le rôle des entreprises dans la pollution. Et en fin de compte, malgré tout ça, la question reste la même. Que faire de nos déchets ? On se retrouve alors avec un débordement de déchets que les services publics n'arrivent plus à gérer. Ils sous-traitent aux entreprises privées qui récupèrent les déchets. Or, celles-ci déchargent leurs déchets sur les côtes des pays dits du Sud global, pays anciennement colonisés par les pays dits du Nord, dont la France, qui exporte ses déchets au Ghana notamment. Il est juste de parler de néocolonialisme écologique. Ce serait un sujet intéressant à creuser. Vous pouvez aussi écouter sur le site de la radio l'émission réalisée par la promo de l'année dernière sur le scandale néocolonialiste autour du chlordécone aux Antilles.
Mais concrètement, en Ariège, la mise en place de la tarification incitative a mis en évidence certains problèmes que les habitants du village ont relevés d'elles-mêmes pendant l'entretien. Je veux parler ici du problème des dépôts sauvages. À certains endroits du village, il reste des anciennes poubelles collectives où il n'y a pas besoin de badger pour jeter ses ordures. Du coup, ces endroits sont remplis de déchets. Et les personnes qui jettent leurs déchets là ne sont pas seulement les personnes qui n'ont pas récupéré leur badge à la mairie. Citons l'entretien.
Il y a des gens qui ne sont pas forcément du village, qui viennent avec une camionnette et qui déchargent leurs poubelles là. Et ils n'en laissent pas qu'une, ils peuvent en laisser des dizaines. Et pour savoir qui c'est, il faudrait pouvoir mettre des caméras et puis leur mettre une contravention. Mais pour ça, la mairie, elle n'a pas le budget.
Ça, c'est l'illustration même du biopouvoir, avec le contrôle des citoyens et citoyennes par les citoyens et citoyennes elles-mêmes. J'espère qu'avec ces illustrations, tout cela est maintenant un peu plus clair pour vous.
Bon, vous vous souvenez quand je vous ai parlé du shaker des inégalités environnementales ? C'est bien, c'est le moment d'en reparler et de se servir un verre.
On ne peut pas parler des déchets sans parler des inégalités environnementales que ça suscite. On vous a expliqué le changement de tarification des déchets en Ariège, mais il faut aussi parler des inégalités qui précédaient ce changement et celles qui en découlent. On a commencé à parler des inégalités environnementales en France en 2002, après le sommet mondial du développement durable de Johannesburg. Pour en donner une définition simplifiée, il y a des inégalités environnementales lorsqu'il y a une différence de situation entre des individus ou groupes des individus dans l'accès à un environnement sain. Un deuxième point à prendre en compte, c'est la répartition inégale des impacts négatifs liés à l'environnement. Et ça, ça porte atteinte au principe de dignité humaine. Et si vous voulez aller au-delà de l'impact du sommet de Johannesburg en 2002 et des inégalités environnementales, on peut vous conseiller de vous intéresser au mouvement de l'environnemental justice aux États-Unis qui prend le prisme du racisme environnemental. Pour approfondir, vous avez des chercheurs, chercheuses comme Beverly White ou Robert Duboulard qui en ont parlé. Pour parler de différence d'accès à un environnement sain, il faut déjà comprendre ce qu'est un environnement sain et le plus simple pour ça, c'est de donner des exemples. On peut alors entendre par là les exemples d'accès à des produits issus de l'agriculture biologique à un milieu naturel ou protégé, comme des jardins ou des forêts, ou la possibilité d'avoir un logement qui permet de faire son propre compost.
Donc pour caricaturer ce que vient de dire Romain, la possibilité de faire son compost dans son logement reflète surtout la différence entre appartement et maison. Mais si on va plus loin, on pourrait même dire la différence entre ville et village. Dans l'entretien réalisé, les personnes ont dit d'elles-mêmes avoir la chance d'avoir un jardin, ce qui leur permet de faire leur propre compost et de réduire leur quantité d'ordures ménagères. En plus de ça, la commune a fait installer au centre du village 3 bacs de compost, accessibles à tout le monde et à n'importe quel moment. Et ça, ça montre encore une inégalité entre le fait de faire son compost en ville ou à la campagne. À Toulouse, même s'il y a des bacs de compostage et que, officiellement, ils sont accessibles à tous, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Car il faut s'inscrire sur une liste pour y accéder et attendre d'être accepté. Et ce compost, il est parfois bien plus loin de chez soi que dans un petit village. Toutes ces contraintes, bah, elles poussent les gens à faire moins attention à la manière dont ils trient leurs déchets organiques.
Merci Lucie. Romain, tu peux nous donner d'autres exemples d'inégalités ?
Oui, on peut parler de la répartition inégale des impacts négatifs liés à l'environnement. Ça, c'est une exposition inégale aux nuisances urbaines, sonores ou visuelles, mais aussi aux risques industriels ou naturels. Ces risques peuvent avoir des conséquences sur la santé via la pollution de l'air, de l'eau ou des sols avec les centres d'enfouissement des déchets, par exemple. Selon notre type de logement ou la position de notre quartier dans une ville, nous n'allons pas être impactés de la même manière par ces nuisances et ces risques, ça c'est sûr. Si l'on prend l'exemple du quartier du Mirail à Toulouse, c'est un quartier bordé du périphérique, traversé par le couloir aérien, qui est donc extrêmement sujet aux nuisances sonores. Dans les années 80, les travaux de Jacques T., économiste travaillant sur l'écologie politique et territoriale en France, montrent que les banlieues ont une possibilité 4 fois supérieure que les autres quartiers d'être traversés par une voie rapide et que les populations les plus modestes sont proportionnellement 4 fois plus exposées à des niveaux sonores dus aux infrastructures de transport que le reste de la population. Le Mirail est aussi un quartier particulièrement touché par la pollution de l'air du fait de la présence de l'incinérateur. Des relevés montrent qu'il y a des particules polluantes dans un rayon allant jusqu'à 3 km autour. On comprend bien que selon les quartiers, les risques et les nuisances auxquels font face les habitants et les habitantes ne sont pas également répartis.
Ok, mais quel est le lien entre les inégalités environnementales et les déchets ?
Déjà, le principe même de la gestion des déchets par les citoyens et les citoyennes est une inégalité environnementale. Alors, mettre en place la tarification incitative, on peut dire que ça accentue encore plus ces inégalités en ajoutant entre autres des inégalités financières. Je m'explique. En passant de la TOM à la REOM, puis à la tarification incitative, une nouvelle difficulté est apparue sur la part que devaient payer les ménages. Est-ce qu'il faut faire payer les personnes seulement en fonction de la quantité de déchets jetés? Est-ce qu'il faut prendre en compte le revenu du ménage et le nombre de personnes dans le foyer? Autrement dit, ne faire entrer aucun critère social dans l'équation ou au contraire les prendre en compte? Actuellement, la réglementation française interdit d'introduire des critères sociaux dans les grilles tarifaires. Donc, la tarification ne pèse pas de la même manière sur tous les usagers et les usagères. En Allemagne, pour essayer de lutter contre cela, plusieurs systèmes ont été envisagés, comme par exemple l'adoption de taux dégressifs pour ne pas pénaliser les familles nombreuses ou encore la présence d'une partie fixe des critères sociaux tels que la taille du ménage.
Et en Ariège, comme dans de nombreux endroits en France où la tarification incitative est en train de se mettre en place, le calcul pour connaître le prix de la tarification incitative est composé de 2 éléments. D'un côté, ce qu'on appelle la part fiscale, qui est calculée par rapport à la valeur locative du logement. Et de l'autre, la part variable, qui dépend de la production d'ordures ménagères. Mais ça, c'est la version idéalisée, où les Ariégeois et Ariégeoises connaissent exactement le prix de la valeur locative du logement et le prix du ramassage des poubelles. En réalité, au moment où nous avons réalisé notre entretien, et depuis le 1er janvier 2024, les personnes ne savaient pas encore combien elles allaient payer, puisque ce n'est que le 31 mars 2025 que le tarif du ramassage des bacs d'ordures ménagères a été voté. En considérant en plus de cela les différences de traitement entre les personnes qui utilisent des bacs individuels et des bacs collectifs, ou des points d'abord volontaires, ça crée du flou dans du flou et ça fait grandir le sentiment d'incertitude et d'inégalité des usagers et usagères du service.
Selon Guillaume Faburel, géographe qui a travaillé sur les inégalités environnementales, les inégalités environnementales doivent être au cœur des préoccupations des politiques publiques. Nous ajoutons que ces politiques publiques devraient prendre en considération les pratiques des usagers, comme lors du changement de tarification des ordures ménagères en Ariège. Cela aurait permis de prendre en considération les personnes possédant un compost et celles n'en ayant pas la possibilité, l'accès aux informations sur le tri du recyclage et de manière générale, la possibilité pour les Ariégeois et les Ariégeoises de réduire leurs déchets avant de généraliser un dispositif renforçant les inégalités.
Merci Romain. Bon, maintenant, je vais faire un petit récap de fin avant de se quitter et que vous retrouviez la promo suivante l'année prochaine. On vous a parlé de la tarification incitative, cette idée qui semble super logique sur le papier. Moins tu jettes, moins tu payes. Sauf que comme on a pu voir en Ariège, ça soulève pas mal de problèmes. On observe un manque d'informations et surtout une dynamique qui peut pénaliser les plus précaires. Résultat, les gens abandonnent leurs déchets là où ils peuvent, y compris dans la nature. On voit bien que quand la logique économique s'applique à un enjeu environnemental sans accompagnement solide, c'est pas l'écologie qui gagne, c'est juste le problème qui est déplacé, et encore quand il n'est pas augmenté. Alors le cas de l'Ariège peut paraître assez bénin, mais les inégalités face aux déchets c'est un vrai problème, qui reflète vraiment le manque de réaction face aux inégalités climatiques. L'Ariège illustre pour une fois au niveau local tout le principe de pollueur-payeur, de privatisation de la société et de ses services publics, mais aussi de la légitimité des plus riches à polluer. On le voit d'habitude au niveau mondial avec les déchets des sociétés occidentales rejetés dans les pays les plus pauvres ou les grosses entreprises qui payent le droit de polluer. Pour continuer un peu sur cette pensée que polluer c'est juste une ligne de plus dans un budget, vous avez le livre « La révolution et le vivant » de Bram Bucher et Rob Fletcher qui présente les différents mouvements de protection de l'environnement. Et ce qu'on voit en Ariège, ça dépasse largement ce territoire. Dans plein d'autres régions, malgré les avancées, on observe le retour des déchetteries sauvages, du brûlage domestique et les difficultés d'accès au tri. On se retrouve avec une écologie à deux vitesses, dans un système mondial qui continue de traiter certains territoires comme des arrière-cours. Et dans le cas de l'Ariège, ce système fait payer ses erreurs à une partie de la population, en se préoccupant peu des impacts environnementaux qui touchent en majorité les populations précaires. Un grand merci à toute l'équipe qui a bossé sur cette émission, à Grégor, notre technicien, à Jacques Lavergne, président de la radio Esprit Occitanie, et à son co-directeur, Jean-Luc Palévaudy. Merci à celles et ceux qui ont pris la parole et à vous qui nous écoutez. On vous laisse avec une question qui permettra de lancer une réflexion sur notre sujet. Est-ce qu'on veut une écologie à deux vitesses ou est-ce qu'on peut construire quelque chose de réellement collectif et juste ? They got to keep him all mine.